Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de sexologie post-traumatique. Et pour ça, je reçois une de mes consoeurs, Caroline Fierens, avec qui nous avons étudié ensemble la sexologie en certificat en Belgique. Elle est située du coup en Belgique. C'est un épisode qui va parler de trauma et de traumatismes liés à des expériences sexuelles. C'est un épisode qui peut être difficile à entendre pour certaines personnes, à partager et au pourtant tant essentiel. Tous les sexologues, psychologues et autres professionnels de la relation d'aide vous diront qu'une grande partie de leur patientèle a subi de près ou de loin des expériences sexuelles traumatisantes. Ce sujet et cet épisode peut réveiller des émotions, des souvenirs traumatisants. Je vous invite du coup à l'écouter que si vous vous sentez prête, prêt à le faire et à être accompagné par des professionnels si le besoin se fait ressentir. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des traumatismes liés à des expériences sexuelles. Nous allons nous intéresser aux symptômes post-traumatiques. Comment peut-on travailler sur la mémoire émotionnelle si on a été victime? Quels outils sont à disposition des professionnels pour mieux accompagner les personnes souffrant dans leur corps, leur sexualité? Pour aborder ce sujet ô combien délicat, je reçois ma consoeur Caroline Fierens. Caroline est criminologue, victimologue et sexologue spécialisée dans l'accompagnement du deuil et du trauma. Elle travaille en sexo post-traumatique suite à des agressions sexuelles, des relations non consenties, des douleurs enregistrées, etc. Notamment en hypnose conversationnelle et en thérapie sensorimotrice. Caroline, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Camille.
Ça fait plaisir de se voir hein, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs et auditrices. On a fait nos études de sexo ensemble, le certificat en sexologie en Belgique ensemble. Donc ça fait plaisir de partager ce moment toutes les deux ensemble sur ce podcast.
Oui, très plaisir de te retrouver.
Donc ton profil, il est super intéressant et cette thématique des violences sexuelles, des abus, des agressions, c'est vraiment important d'en parler et j'avais vraiment envie de quelqu'un de pointu pour le faire, pour que tu nous expliques tout ça. Alors déjà, comment les patients et patientes arrivent à ton cabinet et quelles sont leurs demandes ?
Alors moi, je travaille dans deux cadres bien spécifiques. Donc d'abord dans un cadre de toute première ligne, dans un service d'assistance aux victimes policières, donc dans un commissariat de police. Et je travaille d'autre part dans un cabinet privé, dans mon cabinet en fait. Donc ça dépend un peu de mon cadre de travail. Donc, dans le cadre de l'assistance policière aux victimes, les victimes me sont orientées généralement très très rapidement après les faits victimisants et par la police. Voilà, le service est connu aussi au niveau de la commune. Donc, c'est une commune située à Bruxelles, à Jette pour être précise. Et donc, il y a parfois aussi des psychologues de maisons médicales, de centres de planning familiaux qui m'orientent des victimes. Alors, ce sont des victimes d'infractions pénales, de sinistres ou de catastrophes. Donc, je ne travaille pas que sur en sexo post-traumatique. Même si parfois, quand je travaille sur d'autres types de traumas, la thématique de la sexualité remonte. Et alors là, on peut la travailler. Là, parfois, c'est pas de la toute première ligne, évidemment. Mais donc voilà. Donc là, c'est généralement la police ou les services locaux qui m'orientent les patients. Dans le cadre de mon activité privée, ce sont plus souvent les autres services d'assistance aux victimes qui m'orientent des patients ou des médecins, beaucoup de médecins qui, en fait, au cours de leur consultation, constatent que les symptômes qui surgissent proviennent d'un événement traumatique. Donc, on commençait à un moment bien précis et qu'à ce moment-là, il s'est passé ça. Donc, voilà. Je travaille aussi avec des psys, par exemple, qui, dans le courant de leur thérapie, ne bloquent en fait, n'ont pas les outils nécessaires pour aborder le trauma. Et donc là, on décoince quelque chose et puis les patients continuent une psychothérapie classique avec leur psychologue.
Super intéressant. Et oui, c'est vrai, avec le trauma, il y a des outils spécifiques et tu nous en parleras après. Et donc, il faut être formé pour ça. Et même moi, en tant que sexologue, et puis il y a plein de sexologues qui diront qu'une très grande majorité de leur patientèle a eu des traumatismes de près ou de loin par rapport à la sexualité et des événements traumatisants liés à la sexualité et à l'intime. Et il faut se sentir en capacité de recevoir ça avec les outils appropriés. Donc, bien sûr, de toujours recommander, référencer à une personne comme toi, par exemple, ou d'autres personnes qui ont ces outils-là quand on traite du trauma, parce que ce n'est pas à prendre à la légère. Et tu disais, du coup, donc c'est vraiment différent dans le sens où quand c'est via la police, c'est vraiment la première ligne, l'agression vient d'arriver. Donc, peut-être qu'il y a même, peut-être pas encore des symptômes post-traumatiques, peut-être comme c'est tout récent. Et en cabinet, là, ça peut être effectivement plutôt... des expériences qui ont pu avoir lieu peut-être même dans l'enfance ou des années auparavant, c'est ça ?
Oui, vraiment. Donc c'est vrai qu'au niveau de la police, c'est super intéressant de travailler rapidement, même si effectivement, comme tu le disais, les symptômes ne sont pas encore apparus, mais on peut déjà dans un premier entretien d'anamnèse déterminer si la personne a plus un profil à faire de l'événement difficile un trauma ou pas. Donc et plus vite on agit en fait sur ce qui s'est passé, moins les risques de développer un trauma sont présents. En cabinet privé, c'est vrai que je rencontre parfois des personnes qui ont 65 ans, qui me disent je viens vous voir parce que je vis en dehors de ma vie depuis plusieurs années, j'ai du mal à prendre des décisions, j'ai du mal, alors quand on creuse un peu parfois, et votre sexualité, comment ça se passe, j'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à vivre les choses en pleine conscience, parfois je dis, mais et c'est depuis quand ça ? Je sais pas moi, ça fait 40 ans. Il y a 40 ans. Et puis elle cherche un peu, il y a 40 ans, j'ai été abusée. Et donc, en seconde ligne, je rencontre parfois des gens qui ont vécu des agressions sexuelles il y a des années. Et comme tu disais, parfois dans l'enfance. Donc, alors, soit il y a un symptôme qui est un peu latent comme ça et avec lequel ces personnes vivent pas confortablement, mais fonctionnent tout à fait normalement. Et parfois, elles viennent me voir parce que ce trauma a ressurgi à l'occasion d'un autre événement difficile qui parfois n'a rien à voir avec la sexualité. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant de creuser en fait, de dire ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez vécu, et voilà.
Et tu parlais du profil justement en prévention, un profil de personnes qui pourraient être sujettes à justement un symptôme post-traumatique? C'est quoi dans le profil qui pourrait faire dire ça? Une fragilité, des dépressions passées, c'est quoi exactement?
Ouais. Alors, on peut jamais dire exactement si la personne va développer un trauma ou pas, parce que c'est vraiment quelque chose de très très subjectif. Donc parfois quelqu'un a vécu quelque chose d'extrêmement grave et ne développe jamais de trauma sur cet événement-là, et parfois la personne a vécu quelque chose qui peut paraître un peu une chose anodine au regard de l'extérieur, et elle va développer un trauma. Alors, ce qui peut nous alerter, ben au départ, c'est déjà, est-ce que la personne est bien intégrée socialement? Est-ce qu'elle a beaucoup de ressources au niveau de ses émotions? Est-ce qu'elle est créative? Il y a toutes ces choses-là qui sont assez générales. Et puis, quand on parle du trauma, quelque chose qui est super intéressant, c'est de demander comment la personne a réagi au moment du trauma. Alors, est-ce qu'elle a eu l'occasion d'agir? Ou est-ce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'agir? Alors, est-ce qu'elle a eu l'occasion d'agir simplement au niveau concret, en fait, hein,
c'est-à-dire se défendre, attaquer,
par exemple. Voilà, c'est ça. Parfois, la personne n'a pas eu l'occasion d'agir parce que quelqu'un d'autre l'a empêché d'agir. Mais parfois aussi, elle n'a pas pu agir parce qu'elle a été sidérée. Elle a été complètement figée parce que la situation était tellement incompréhensible qu'elle n'a pas pu l'intégrer. Et donc, ces émotions, en fait, énormes, n'ont pas pu être gérées. Et quand ces émotions ne peuvent pas être gérées, qu'est-ce qu'on fait? On se fige, quoi. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est de poser la question. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? J'ai rien fait. OK. Est-ce que c'était un ne rien faire stratégique, on va dire? Parce que là, il s'agit de faire quelque chose. Donc finalement, quelqu'un qui fait le mort, il fait rien, mais en fait, il fait quelque chose. Ou est-ce que vous n'avez pas pu agir parce que vous étiez figé? Alors là, évidemment, quand on parle d'agression sexuelle, la sidération, elle est très très souvent présente. Et c'est un gros problème aussi. On peut en reparler, hein, par rapport à la plainte, par rapport à la culpabilité de rien avoir fait. Enfin voilà.
Oui, et avant d'aller plus loin, parce qu'on parle de trauma, est-ce que tu peux rappeler déjà qu'est-ce qu'un trauma? Quels sont les symptômes post-traumatiques aussi?
Pour moi, un trauma, c'est un événement difficile qui reste difficile. Donc ça veut dire que les émotions qui ont été vécues au moment du trauma restent actives. Donc le trauma, au lieu de passer dans la mémoire autobiographique, on va pouvoir parler de ce qui s'est passé en disant « Ah là, ça a été horrible, épouvantable, j'ai vécu ci et ci et ça », mais sans émotion, enfin, peut-être avec des émotions, mais qui ne posent pas problème. L'événement difficile devient un trauma quand les émotions rattachées à l'événement restent actives. Ça veut dire que, par la suite, les émotions qui vont être vécues ne seront pas en lien avec l'ici et maintenant, mais seront en lien avec un événement du passé. Et comme le travail des émotions, c'est de nous transmettre de l'information sur ce qui se passe et de nous permettre de nous adapter, si les émotions ne sont pas en lien avec l'instant présent, elles vont pas nous permettre de nous adapter. Et donc, on va avoir des comportements qui sont complètement décalés par rapport à la réalité. Par exemple, en sexualité, j'ai vécu quelque chose de difficile, l'émotion reste active, je me retrouve après dans une situation, une relation qui est tout à fait en équilibre, qui est respectueuse, qui est chaleureuse, enfin tout ce qu'on veut, paf, c'est l'émotion de danger qui se remet en place. Et cette émotion-là va dire... ferme-toi, déconnecte-toi, et ça peut provoquer un manque de désir de manière générale, hein, parce que quand toutes les relations sexuelles se passent mal, il y a plus de désir. Ça peut provoquer des douleurs comme une dyspareunie, du vaginisme. Ça peut provoquer une anorgasmie, une impossibilité de lâcher prise. Et donc, typiquement là, on est dans une situation où l'émotion n'est pas adaptée à l'instant présent, mais est en lien avec un événement du passé.
Super intéressant, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est vraiment les situations qu'on voit le plus quand il y a eu justement des agressions ou des traumas. Et puis finalement, aujourd'hui, elle, et là je parle plus, bah, c'est souvent quand même des femmes en séance qui ont vécu, qui ont ce vécu-là, et qui disent, mais aujourd'hui, voilà, j'ai du vaginisme, ou j'ai des douleurs, ou j'ai plus de libido, et pourtant, avec mon compagnon, ma compagne, tout se passe bien. Alors souvent, c'est avec le compagnon, parce que ça peut aussi être, souvent, elles ont été aussi victime de par un homme, et ça peut renvoyer aussi pas mal de choses aussi d'être avec un partenaire, même s'il est bienveillant, comme tu disais, des émotions rattachées à ce trauma qui sont toujours actives aujourd'hui au moment présent, alors que même dans ce moment présent, finalement, elle est en sécurité.
Exactement.
Et d'ailleurs, j'ai des patientes aussi par rapport à ça qui, après une agression, et tu parlais d'anorgasmie, qui ont du mal à, en fait, sentir des sensations. Elles disent « je ne ressens rien, on a beau faire, je ne ressens rien ». Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Et tu parlais aussi de se figer, des émotions qui sont… Enfin, on n'arrive pas à les intégrer, donc on se fige. Mais là, au niveau du corps, quand on ne ressent plus ces sensations, est-ce que tu peux donner des pistes d'explication?
Oui. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que quand on a trop d'émotions et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on se dissocie. Donc ça veut dire que, je donne toujours l'exemple d'une boîte électrique. Hein, quand il y a trop de machines sur la boîte électrique, qu'est-ce qui se passe? Ben la boîte disjoncte en fait. Donc les plombs sautent et ça évite en fait à la maison de prendre feu. Quand on vit un événement qu'on n'arrive pas à intégrer, qu'on ne comprend pas, qui ne rentre pas dans nos repères et tout ça, ben les émotions en fait sont tellement énorme que le cerveau, donc notre boîte électrique en fait, hein, que notre cerveau, pour éviter qu'on ne s'effondre complètement, qu'on prenne feu, disjoncte en fait. Et donc, il y a ce qu'on appelle un phénomène de dissociation, qui est un phénomène où la victime sort de son corps pour ne plus vraiment vivre les émotions et la douleur que vit le corps. Et donc, on entend très souvent, hein, d'ailleurs, des témoignages de victimes qui disent « moi, j'ai vécu la scène de haut ». En fait, je me voyais à l'extérieur, enfin, j'étais à l'extérieur et je me voyais me faire violer par d'autres personnes. Et donc, là, je dis me faire violer parce que c'est ce qui revient souvent, mais il faut peut-être qu'on revienne sur ce terme-là.
Ouais, tu peux revenir sur ce terme-là.
On reviendra dessus. Et donc, ce phénomène dissociatif, il est super utile au moment de l'agression. Par contre, certaines personnes restent dissociées pendant des heures, des jours, des mois, des années. Et quand je parlais tout à l'heure des personnes qui viennent en me disant « ben voilà, moi je vis à côté de ma vie, je sais pas prendre une décision, je sais pas faire un choix, j'ai l'impression d'être spectateur de ce qui se passe mais pas acteur », souvent l'origine de cette situation-là, c'est un phénomène dissociatif.
Wow. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être se disent, mais en fait, finalement, je me retrouve là-dedans, et qui commencent peut-être à paniquer aussi, à se dire, mince, qu'est-ce qu'elle peut le faire aussi? Alors, je sais qu'on anticipe un petit peu aussi sur les outils, mais là, juste en écoutant ça, si elles paniquent ou elles se disent, je me retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'elles peuvent faire?
Alors, je pense que le mieux, c'est de consulter, hein, quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Moi, la manière dont j'accueille ça, c'est d'abord, en fait, de permettre à la personne de raconter ce qui s'est passé. De raconter, raconter, raconter. Et en racontant, en fait, on va remettre de la chronologie. On va faire des liens entre des faits. Et en fait, ça va diminuer cette sensation d'être dissocié. On va mettre des mots, en fait, sur ce qui s'est passé pour rendre les choses objectives et pas seulement subjectives. Pas seulement être quelque chose qui est flou, qui est... voilà, parce que c'est souvent le bazar total. Hein. Il y a souvent des périodes d'anesthésie et d'amnésie complète. Donc, des personnes qui ont oublié certains passages de leur agression. Donc, en fait, ce qu'on fait pour commencer, c'est qu'on remet du lien, c'est qu'on remet des mots sur les choses. Après, y a des outils comme l'hypnose, comme le MDR que je ne pratique pas, mais je sais que ça fonctionne super bien aussi.
Tu peux expliquer si tu ne pratiques pas, mais est-ce que tu sais l'expliquer?
Donc le MDR, c'est une thérapie qui fonctionne sur le mouvement des yeux ou des sons dans les oreilles ou des tapotements et des choses comme ça qui vont faire passer des événements d'une partie du cerveau à l'autre et qui donc vont remettre chaque chose à sa place, quoi. Alors bon, je peux pas en dire beaucoup plus parce que je la pratique pas en fait. Donc voilà. Par contre, en hypnose, ce qu'on va faire, c'est aller revisiter en fait la scène. Et la transformer. Alors, on sait très bien que c'est de l'imaginaire, hein. Les gens ne deviennent pas fous et se disent pas qu'ils ont transformé leur agresseur en un jardin. Ils savent bien que ça, c'est pas possible. Mais par contre, on peut aller modifier le scénario pour modifier les émotions qui y sont rattachées. Et quand je dis modifier le scénario, on peut, par exemple, mettre de l'action là où il n'y a pas pu en avoir au moment de l'agression. Et donc, on peut, par exemple, faire ce qu'on appelle dans notre jargon des actes de triomphe, c'est-à-dire, voilà, j'ai été agressée, j'ai été complètement sidérée, paralysée, j'ai pas su réagir. Ok, maintenant, on est dans un cadre sécurisé, vous êtes accompagnée. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben là, je vais le repousser, je vais le frapper, je vais lui cracher dessus, ou il y a quelqu'un qui va venir m'aider, ou il y a... Et voilà, on va pouvoir en fait faire ces actes de triomphe. Alors, il y a les thérapies cognitivo-comportementales comme l'hypnose et comme le MDR, qui en fait jouent sur les pensées pour changer en fait les comportements. Et alors il y a les thérapies comme par exemple la thérapie sensorimotrice que j'utilise aussi, où on utilise les comportements pour jouer sur les émotions. Et donc là on va pouvoir par exemple dire ok, là j'observe dans votre corps qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre main. Qu'est-ce qui se passe dans votre main? Ben dans ma main, il y a de la peur, il y a de la colère. Ok, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et on utilise alors le mouvement pour faire ces actes de triomphe en fait. Donc c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je travaille sur les traumas.
Thérapie sensorimotrice, donc c'est par le mouvement, c'est ça, par le voilà. Mouvement que du coup on remet action, on restructure aussi les événements avec son propre discours, peut-être avec les éléments qu'on a envie de mettre, qui font qu'on fait acte. Comment tu parlais là,
acte de triomphe.
Oui. Pour se sentir en fait dans sa toute puissance, dans des moments où on a perdu contrôle finalement.
Ouais, c'est ça. Et alors le mouvement, alors ça doit pas être des grands mouvements, ça peut être des tout petits mouvements. En fait, ça part vraiment de ce que le thérapeute observe chez le patient quand il raconte l'événement traumatique. Et quand je parle de mouvement, ça peut être aussi par la voix, ça peut être aussi par la respiration. C'est vraiment une thérapie qui se penche aussi sur l'ici et maintenant. Ok, quand vous racontez la scène qui s'est passée à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre corps aujourd'hui? Et donc, on utilise vraiment la pleine conscience pour aller travailler sur des événements du passé. Donc, c'est très sympa.
Ouais, c'est sympa et très, enfin, j'ai l'impression quand même holistique dans le sens où on utilise bien sûr les émotions, on parle, on discute, on échange, mais on utilise aussi le corps, on utilise les outils de pleine conscience. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que ça englobe en fait finalement plein d'outils qui sont super pertinents et encore plus dans cette thématique-là. Et je voulais revenir sur le terme « je me suis fait violer ». Est-ce que tu peux en dire plus ?
Alors ça, c'est ce qu'on entend tout le temps. « Je me suis fait violer, je me suis fait agresser, je me suis fait… » Et je pense que quelque part, ça peut provenir. Alors bon, déjà, c'est dans le langage courant, hein. Enfin, je veux dire, même les policiers utilisent ce langage-là. Et nous, on les reprend toujours en disant, non, non, elle ne s'est pas fait violer, elle a été violée. Elle a été agressée. Elle n'a pas de responsabilité là-dedans. Dire, je me suis fait violer, c'est quelque part comme s'il y avait quelque chose de volontaire. Alors qu'il y a que du subi dans l'histoire. Moi, j'ai l'impression que ces termes-là, ben, peut-être qu'historiquement, ils viennent du fait que la société avait pas envie de prendre certaines choses en charge et que donc finalement, laisser la victime prendre tout en charge, dont la responsabilité, la culpabilité, etc., ça arrangeait bien tout le monde. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose aussi de l'ordre de la sidération. C'est que quand on n'a pas pu agir, il y a une grande culpabilité, en fait. Et de cette culpabilité peut venir une émotion de responsabilité, en fait. Ok, ben, finalement, j'ai quand même pas vraiment dit non, quoi. J'ai quand même, j'aurais pu crier, peut-être que quelqu'un m'aurait entendu, j'aurais pu faire ça. Je l'ai pas fait, donc peut-être que quelque part, j'ai un petit peu participé à ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, une fois que le phénomène de la sidération est compris et intégré par la victime, elle comprend qu'elle pouvait rien faire, en fait, à part se dissocier pour éviter de prendre feu, enfin pour éviter de disjoncter, pour éviter de s'effondrer totalement.
Bah, on revient encore, tout est intéressant. Déjà, les mots ont une importance, comme tu dis, et je pense que c'est bien de penser les mots qu'on utilise, parce qu'effectivement, te dire « je me suis fait violer, je me suis fait agresser », on le subit et presque c'est une responsabilité sur les épaules, quoi, des victimes. Et alors qu'il faut remettre à sa place, en fait, bah, qui est la victime et qui est la personne qui agresse. Donc, les mots ont une importance. Et aussi dans ce sentiment de vécu aussi, comme tu disais, pour beaucoup de victimes, ce qu'on retrouve, c'est la culpabilité, la honte, j'ai pas dit non, ou même aussi dire, en fait, bah, je crois que j'ai eu un orgasme, j'ai une sorte d'excitation même pendant un viol, ça voulait peut-être dire que j'en avais envie, et qui viennent avec ces questions-là aussi en cabinet de sexologie, et c'est important, en fait, de rappeler aussi, du coup, la fonction aussi du corps, et qui le corps réagit à un stimuli sexuel. C'est peut-être pas excitant, on peut l'interpréter de manière subjective, c'est pas excitant. Par contre, le corps, bah, il est stimulé d'une certaine façon et va réagir de manière physiologique pour se protéger aussi, finalement, s'il y a pénétration ou agression, pour que ça soit peut-être le moins violent possible pour le corps, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose de voulu. On appelle ça la non-concordance de l'excitation, finalement, où il se passe quelque chose dans notre corps. Par exemple, on lubrifie. Par exemple, on peut ressentir des spasmes du plancher pelvien qu'on va traduire par un orgasme. Mais finalement, dans le vécu, dans le subjectif, ça n'a rien à voir.
Exactement. Et c'est super intéressant que tu abordes ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui vient souvent, où parfois les femmes prennent des séances avant de nous dire « mais vous savez quoi ?» En fait, j'ai eu un orgasme. Et là, c'est super intéressant de pouvoir leur expliquer. Mais vous savez, l'orgasme, c'est quelque chose de mécanique. C'est quelque chose qui ne se contrôle pas, en fait. C'est votre corps qui réagit à quelque chose de mécanique. Et ça, c'est pas parce que vous avez un orgasme que vous avez été consentante. Et c'est vraiment super intéressant de faire la part des choses, en fait. Et c'est exactement la même chose comme... Par exemple, un corps qui est en grand danger peut se mettre en état de mort feinte, en fait. Et c'est pas quelqu'un qui fait semblant d'être mort, c'est quelqu'un dont le corps, en fait, toutes les caractéristiques du corps se sont mises en état de mort. Et puis quand le danger disparaît, la personne, tout d'un coup, pouf, pouf, elle ressuscite, quoi. Et en fait, l'orgasme, c'est exactement la même chose, ou la lubrification, c'est exactement la même chose. C'est le corps qui réagit. Ça peut être un mécanisme de défense aussi. Ok, j'ai un orgasme, ça veut dire que c'est fini, quelque part. Et donc, c'est très, très intéressant de pouvoir expliquer ça à la victime pour la déculpabiliser, en fait.
Ouais, très intéressant, puisqu'en plus, souvent, ça va être « mon corps m'a trahi ». Mon corps m'a trahi, pourquoi il a eu du plaisir, ou pourquoi il a réagi comme ça. Et d'expliquer, là, ce qu'on vient d'expliquer, finalement, c'est dire « ben non, en fait, votre corps est votre ami ». Il a été là pour vous aider dans cette situation-là, même si au premier abord, ça ne semble pas, mais quand on comprend la mécanique, quand on comprend en fait les stratégies de résilience même du corps, il a été là pour vous. Et ça, je pense que c'est une étape importante aussi pour qu'ensuite les personnes se reconnectent à ce corps finalement, réapprennent à l'aimer, parce que bah, souvent, hein, suite à des agressions, des traumas, il peut y avoir ce désamour vis-à-vis du corps qui les a trahis, qui les a lâchés, qui a été figé dans un moment où alors elles voulaient simplement courir et s'enfuir, et je trouve ça important peut-être dans l'étape d'acceptation et de reconnexion.
Ouais. Votre corps ne vous a pas trahi, il vous a sauvé la vie, en fait. Et c'est vraiment intéressant. Maintenant, ce qui est très intéressant aussi, c'est de se dire que une femme, par exemple, qui a eu un orgasme pendant un viol, peut avoir besoin de violence par la suite pour retrouver l'orgasme, parce qu'elle enregistre aussi orgasme égale violence. Et donc là aussi, c'est super intéressant en fait de pouvoir aller travailler sur le viol pour dire non, en fait, votre corps vous a sauvé la vie, mais c'est pas dans des circonstances pareilles que vous allez avoir du plaisir, ou peut-être oui. Hein, enfin après, chacun c'est de rester ouvert par rapport à ça. Mais si la patiente est dérangée par le fait de devoir être quelque part un peu violentée pour arriver à un orgasme, c'est important d'aller chercher d'où ça vient.
Ah oui, c'est oui, parce que et ça peut être ça aussi. J'ai besoin d'être avec des partenaires qui me violentent un petit peu pour justement ressentir des sensations. Donc c'est comme tu dis, c'est intéressant. Et aussi dans l'autre cas où par contre ça va être, j'ai besoin moi de prendre pouvoir et d'être maîtresse de ce qui se passe pour prendre du plaisir, parce que si je me retrouve dans la même position, dans la même situation dans laquelle j'ai été violentée, je peux pas lâcher prise.
Exactement, ouais. Ouais, ça arrive aussi hein, qu'il y ait un échange de rôle en fait. Si je suis pas dans la prise de pouvoir, ça veut dire que je suis abusée quelque part. Et donc là, c'est rétablir l'équilibre en fait dans tout ça. Mais c'est ça qui est passionnant en fait, hein, c'est d'observer les choses. Alors d'observer les comportements sans se dire qu'ils sont dysfonctionnels. En fait, ils ont une fonction à ce moment-là, quelque part, sans les sortir de la normalité. Dire, OK, vous avez ce comportement-là, mais il ne vous convient pas. Ça ne veut pas dire que c'est un comportement dysfonctionnel, mais on peut peut-être travailler sur le fait que il y a des comportements qui ont été enregistrés, mais que vous ne devez pas être enfermé dans ce comportement-là. On peut ouvrir les choses. Maintenant, je pense que, et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup quand on travaille sur le trauma, c'est que des symptômes post-traumatiques sont vus comme des dysfonctions et sont vus comme des problèmes, en fait. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui ont vécu un trauma sont psychiatrisées, par exemple. Je pense aux personnalités borderline ou bipolaires ou paranoïaque, ou parfois on les étiquette psychiatriques, alors qu'en fait elles sont simplement traumatisées.
Donc là, tu soulignes l'importance aussi d'être formée finalement aussi formée du coup au trauma, pour aussi pouvoir identifier sans forcément étiqueter, mais du coup de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière et de pouvoir accompagner ces personnes-là, puisque si on pouvait les accompagner sur leurs symptômes post-traumatiques, peut-être que ça les aiderait justement dans leur psychisme, en fait.
Exactement. Ouais. Et je trouve ça très rassurant que dans les formations trauma, en tout cas dans les formations que je suis, il y a quand même pas mal de psychiatres et que la psychiatrie s'ouvre un peu à tout ça aussi. Notamment tout ce qui est en lien avec des addictions à l'alcool, aux drogues, etc. Les addictions aux substances, c'est aussi une forme de dissociation quelque part. Et donc ça, peut-être que ça entretient une dissociation qu'on pourrait éliminer en travaillant sur le trauma, et donc que la personne n'aurait plus besoin de se dissocier à l'aide de substances, parce qu'en fait, le trauma est réglé.
Et c'est le docteur Gabor Maté qui parle beaucoup aussi des traumas qui conduisent justement à l'addiction, et que finalement, en fait, penser l'addiction sous forme de peut-être il y a eu des expériences traumatisantes et de pouvoir les accompagner. Et donc, comme tu disais, que toutes les personnes qui travaillent aussi en addictologie puissent être formées justement aussi au trauma et se pencher là-dessus.
Oui, je pense que ça serait vraiment intéressant.
Et là, alors, on a quand même parlé principalement aussi des femmes qui ont subi des traumas. Est-ce que tu vois une différence quand c'est des hommes qui vivent des traumatismes, et là, de l'ordre, bien sûr, sexuel ?
Alors là, déjà, je vois une différence, c'est que les hommes consultent beaucoup moins que les femmes.
Mm-hmm. Pourquoi ?
Donc, je ne sais pas. Je crois que c'est plus difficile socialement de se dire « je vais consulter en tant qu'homme ».
Est-ce que je vais être crue aussi, peut-être ? il y a de cet ordre-là. Enfin, dans mon hypothèse aussi, c'est déjà de manière générale, les hommes ont plus de difficultés à aller voir le médecin, des psys, etc., des sexologues. Mais encore plus dans ce sujet si tabou où on se dit finalement, en tant qu'homme, je ne peux pas être agressée parce que c'est moi normalement la personne dominante. Et là, j'ai subi une agression. Et déjà, c'est peut-être honteux aussi pour eux de se sentir honteux, mais est-ce que je vais être crue aussi ?
Ouais. Oui, et je pense que la honte aussi est importante, que c'est, enfin les hommes que j'ai accompagnés, donc déjà il y en a pas eu beaucoup, mais j'essaye de me souvenir comme ça, mais ceux que j'ai accompagnés c'était des abus pendant l'enfance en fait. Mais alors c'est aussi, est-ce que ça remet quelque chose en question par rapport à ma virilité, par rapport, oui, je crois que c'est encore beaucoup plus tabou en fait chez les hommes et que qu'ils parlent beaucoup moins de ça, et c'est dommage parce qu'en fait beaucoup d'hommes, je pense, ont vécu des traumas d'ordre sexuel. Alors parfois on en rencontre aussi, il y a aussi des traumas de l'ordre de quand il y a quelque chose qu'eux interprètent comme une petite dysfonction, comme une éjaculation prématurée ou un trouble de l'érection, ou voilà. Il y a aussi certains qui ressentent une honte parce que la femme leur reproche. Donc ça, j'en ai déjà eu pas mal aussi. Même quand le trouble de l'érection, par exemple, est dû à une prise de médicaments après opération du cœur, par exemple, chose comme ça, c'est super dur pour eux d'entendre une femme qui dit ben voilà, on t'a castré, on t'a et ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la puissance de
du phallus, hein, finalement, qui doit
exactement
être, ouais, en forme et effectivement un jugement finalement de la part de la partenaire fait beaucoup de mal et joue encore plus sur l'estime de soi. Et l'estime de soi, si on a une faible estime de soi en tant qu'homme, bah on peut perdre confiance, et confiance dans sa capacité érectile aussi, et donc on entre dans ce cercle aussi vicieux, ouais, du trouble érectile et de la difficulté à s'en sortir. Je voulais revenir aussi, on parlait un peu de consentement, et c'est vrai que bah, ces dernières années, on en parle de plus en plus, et il y a des fois des personnes qui se disent, mais en fait, en y réfléchissant, maintenant que j'ai conscience de ce qu'est le consentement, de sa définition, il y a plein de situations où finalement, j'ai vécu des relations non consenties, où j'ai vécu du viol conjugal. Est-ce que là, par exemple, en parlant du viol conjugal, ça peut être traumatisant pour certaines personnes ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, c'est sûr que la notion de consentement, elle est assez récente, j'ai l'impression, et elle est super intéressante parce que moi, ce que je rencontre beaucoup, beaucoup comme situation, ce sont des relations qui étaient consenties jusqu'à un certain stade, et pas pour d'autres choses. Donc typiquement, c'est ok, c'est moi qui l'ai chauffé, j'avais envie d'une relation sexuelle, la relation sexuelle s'est bien passée, et puis tout d'un coup, l'homme a voulu me sodomiser, et là j'étais plus consentante. Mais à partir du moment où j'étais consentante pour le reste, on dit oh ben oui, t'étais consentante quoi. Mais c'est que à chaque instant en fait, la femme a la possibilité et doit même pouvoir dire non, et l'homme doit pouvoir l'entendre. Et donc c'est difficile parce que souvent le fait d'avoir donné un peu, on a l'impression qu'on peut plus faire marche arrière.
Oui. Et en même temps, je trouve que c'est pour ça que c'est important aussi dans le consentement que les personnes aient la définition complète, parce que quand on l'a, du coup, je la reprends, le consentement, il doit être clair, donc ça doit être, on parle d'un oui enthousiaste, on doit entendre un oui ou en tout cas quelque chose d'enthousiasmant, libre, c'est-à-dire sans pression ni menace ou ni chantage, hein, donc c'est quand même assez des fois gris cette zone-là. Il doit être éclairé, c'est-à-dire que on ne peut pas le faire pendant le sommeil du ou de la partenaire, ni sous l'effet de substances, et actualisé dans le sens qu'on peut le retirer à tout moment, c'est-à-dire que vous pouvez être dans les préliminaires, dans les caresses, dans justement peut-être un comme tu disais dans ton exemple, un rapport avec pénétration vaginale, et puis là le partenaire veut sodomie, vous avez le droit de dire non parce que votre consentement doit être actualisé. pour chaque nouvelle pratique, à chaque moment. Donc voilà, ça c'est important aussi de savoir que vous avez cette permission-là, finalement, de dire non.
Ouais. Maintenant, je crois que c'est une question qui est difficile. Alors, si on parle d'une relation sexuelle hétérosexuelle, et ça peut être difficile pour l'homme aussi de se dire, mais comment finalement je suis sûre qu'elle est consentante ? Qu'elle soit consentante. Est-ce que je dois demander toutes les 5 minutes et ça t'es d'accord ou pas d'accord et ça t'es... Et en fait, c'est quand même une notion qui est très très difficile, mais pour les deux partenaires, je pense. Sans compter que l'homme n'est pas toujours consentant non plus pour ce que lui fait la femme. Peut-être que parfois l'homme a pas envie d'une fellation, en tout cas à ce moment-là, parce qu'il a peur que ça mette fin trop vite à la relation ou quoi. Il doit aussi pouvoir dire non, j'ai pas envie là maintenant. Attention, là va plus vite, là va plus lentement. Donc le consentement, on parle toujours du consentement des femmes, mais le consentement, c'est dans les deux sens. Et je pense qu'en fait, il y a qu'une seule chose qui peut aider, c'est le dialogue. Parce que effectivement, un partenaire va pas tout le temps demander à l'autre toutes les 10 minutes. Et ça, t'es sûr que tu veux bien que je fasse. Et ça, t'es sûr. Il faut quelque part du lâcher prise et de la spontanéité aussi. Donc c'est vraiment une question très très délicate. Alors bah, évidemment, l'exemple que j'ai donné avec la pénétration vaginale qui pouf tout d'un coup dérape vers une pénétration anale, bah, ça, il est assez clair de pouvoir dire non. Ça, c'est sûr. Mais dans toute la relation, il faut du consentement tout le temps. Et là, il n'y a pas de recette miracle, à part dialoguer. Mettez peut-être des petits signes. Quand je fais ce petit truc-là, c'est ça. Mais je trouve qu'en tant que sexo, et moi, je travaille très, très peu avec des couples, hein, comme je travaille principalement en post-trauma, je travaille très peu avec des couples. Mais je pense que c'est super intéressant dans un couple de dire comment on communique au moment de la relation sexuelle.
Ouais, super passionnant. Ouais. Et je renvoie justement les auditeurs et auditrices à l'épisode sur le consentement, justement, où on aborde comment, voilà, qu'est-ce que le consentement dans l'épisode 3, comment le mettre en pratique. Et bien sûr, à la suite de ça, il y a des couples, hein, qui me disent « Mais nous, des fois, je la réveille ou je le réveille pendant la nuit pour qu'on fasse l'amour. Est-ce que ça, c'est du consentement ou pas ?» Ou la question aussi récemment, et c'était très intéressant, d'une forme de pression, de j'ai envie d'un enfant, là j'ai vraiment envie d'un enfant, et je lui parle à chaque fois de mon ovulation et il sent que j'ai envie de faire l'amour parce que je suis en ovulation. Est-ce que du coup c'est du consentement ou pas? Est-ce que je suis en train de le pressuriser? Donc ça soulève plein de questions et on n'a pas toutes les réponses et c'est pas si facile que ça, mais encore une fois, la clé c'est déjà d'en parler. Et de trouver ensemble finalement au sein du couple en fait ce qui est ok ou non. Mais voilà. Mais je voulais rebondir aussi, du coup, par rapport, parce qu'on parlait consentement, et aussi par rapport aux personnes. Là, dans le cas où t'as des patientes qui auraient oublié leur agression, qui ont oublié leur agression, soit parce que ça a été des abus dans l'enfance, soit parce qu'elles ont été droguées, GHB, soit parce que il y avait trop d'alcool. Est-ce que c'est possible et ou utile de se souvenir de ça, et par exemple par l'hypnose, comme tu disais?
C'est une demande que j'ai quand même assez régulièrement en fait. Mais le GHB, voilà, il y a eu, on en entend un petit peu moins maintenant. Maintenant c'est autre chose. Mais pendant plusieurs années, j'ai eu très régulièrement des victimes qui venaient porter plainte, mais elles savaient pas vraiment pourquoi elles venaient porter plainte, parce qu'elles s'étaient réveillées dans un lit complètement massacré et que donc elles avaient bien compris qu'il s'était passé quelque chose, mais impossible de savoir ce qui s'était passé exactement. Donc déjà là, il y a tout un accompagnement à faire par rapport à la plainte, par rapport à retracer les faits jusqu'à ce qu'il y ait l'amnésie totale et le trou noir, quoi. Et alors souvent, ces personnes me disent « Est-ce qu'en hypnose, vous pouvez retrouver la vérité, retrouver ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on va pouvoir… » Alors ça, moi, je fais jamais. Parce que je le… Ou alors… Enfin, je peux le faire, mais en leur disant, on est toutes les deux OK sur le fait qu'on va inventer ce qui s'est passé, qu'on va on va créer un scénario. Je me souviens comme ça d'une dame qui me disait voilà, enfin violée sous GHB, très très blessée, et elle me disait ma hantise c'est qu'il y ait eu plusieurs agresseurs. Là normalement si j'y réfléchis par rapport à avec qui j'ai bu un verre, où je suis allée, etc., normalement il y en avait qu'un, mais ma hantise c'est qu'il y en ait eu plusieurs. Est-ce qu'on peut en hypnose voir s'il y en avait un ou plusieurs? Moi, je sais pas. On ne sait pas faire ça. Par contre, si ça vous arrange mieux qu'il n'y en ait eu qu'un, on va aller revivre ensemble votre agression avec un agresseur. Et tant qu'on y est, on va pouvoir faire des actes de triomphe, on va pouvoir le transformer, on va pouvoir le faire. Mais à ce moment-là, on est toutes les deux d'accord sur le fait que ce qu'on va faire, c'est travailler sur l'imaginaire. Et pas sur la réalité, qu'on va pas faire remonter des souvenirs. J'avais par exemple comme ça une dame qui était venue me voir, elle avait tous les symptômes d'agression sexuelle dans l'enfance, mais elle ne se souvenait de rien, et c'est sa mère qui lui a toujours raconté qu'elle avait été abusée, mais sans lui dire par qui, ni quand, ni comment. Et donc, elle a grandi en fait avec cette idée qu'elle avait été abusée sans savoir quoi. Elle est venue me voir en me disant « Est-ce qu'on peut retrouver mon agresseur en hypnose ?» Je dis, non, on ne va pas retrouver votre agresseur. Il y a trop de risques de biais, en fait. Donc, voilà. Et peut-être que si vous avez mis ça de côté, il y a peut-être un côté stratégique là-dedans. Donc, moi, je ne vais pas venir balancer toutes vos stratégies non plus.
Oui, c'est parce que c'est la question aussi souvent. Si je me souviens de rien, mais que j'ai l'impression qu'effectivement, dans mon entourage, on m'a dit que j'ai été abusée, mais je ne me souviens de rien, est-ce que c'est utile d'aller creuser ou au contraire, on se laisse tranquille?
Oui. Moi, je pense qu'on peut se laisser tranquille. Alors, pour la petite histoire, cette dame-là, elle a complètement pris le contrôle de son hypnose en me disant « Il y a une porte devant moi et derrière la porte, il y a la vérité. » Alors là, moi, je l'ai accompagnée en disant « Est-ce que vous voulez qu'on aille ouvrir la porte ?»« Oui, je veux ouvrir la porte pour trouver la vérité. » Là, elle a ouvert la porte et la pièce était vide. Et donc, elle m'a dit « En fait, j'ai jamais été violée. » On m'a raconté des conneries. Voilà. Et donc, ça, c'est par exemple un travail qu'on peut faire en hypnose. C'est accompagner la personne. Mais aller rechercher une vérité, ça, on ne le fait pas. Alors, est-ce que cette femme a été violée ou pas violée? En attendant, ses symptômes ont disparu. Et c'est quand même ça l'objectif, en fait.
D'aller vers du mieux.
Exactement.
Vers du mieux. Et ben oui, parce que il y a eu aussi plein d'histoires où, ah oui, j'avais fait des séances d'hypnose, et puis en fait, finalement, le praticien hypnotiseur ou hypnotiseuse m'a dit, j'ai été agressée, j'ai été violée. Ça, c'est pas toi qui viens mettre des mots. Parce qu'il y a eu plein d'histoires aussi dans le sens, des choses inventées, des agressions inventées ou réelles, on n'en sait rien, point d'interrogation, mais après des séances d'hypnose.
Oui, moi j'ai des patients qui viennent consulter suite à un rendez-vous chez alors soit quelqu'un qui fait de l'hypnose, soit parfois même un kiné ou une nutritionniste ou qui leur a dit ah là 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 c'est votre corps qui parle, il s'est sûrement passé ceci cela, et en fait le trauma c'est pas ce qui se serait passé, le trauma c'est la séance avec le thérapeute. Et donc, moi, j'ai des patients qui viennent consulter pour ça, en disant, depuis que je suis allée là et qu'on m'a dit ça, j'ai des symptômes. Et en fait, alors là, c'est compliqué, parce que là, on doit retravailler la séance, ou on doit travailler l'imaginaire, ce que cette séance est venue réveiller ou induire.
Oui.
Et donc, je crois quand même qu'en tant que thérapeute, on a une responsabilité qui est importante et qu'on doit jamais oublier, en fait. C'est que l'objectif, c'est que la personne aille mieux après et pas d'aller touiller dans des choses. Parfois, le cerveau et le corps ont très, très bien fait leur boulot et on fait en sorte que la personne va bien. C'est pas à nous. Et pour moi, un thérapeute doit vraiment être en position basse. Et il doit vraiment accompagner son patient. Il doit marcher à côté de lui. Il ne doit pas marcher devant et le tirer pour aller plus vite ou aller où il ne veut pas aller. Donc, moi, c'est vraiment ma vision de l'accompagnement. C'est qu'on n'est pas là pour pousser, pour tirer, pour soulever. On est là pour accompagner, observer les changements et soutenir ces changements, mais pas pour induire quoi que ce soit.
Ben faisons la transition justement, parce que tu as déjà donné des éléments de réponse, mais dans ce podcast, il y a beaucoup aussi, il y a pas mal de sexologues qui nous écoutent ou de thérapeutes en relation d'aide et qui peuvent des fois se demander comment justement bien accompagner les personnes victimes de violences sexuelles, que faire, que dire. Peux-tu nous dire ce qui est important dans l'accueil des patients et des patientes ?
Alors déjà l'accueil, simplement. Accueillir dans de bonnes conditions, dans un lieu qui est sécurisant. Quand c'est pas possible, par exemple dans le travail de première ligne, on n'est pas toujours dans un lieu accueillant ou sécurisant, mais alors on doit aménager un accueil autre que le lieu. On doit en tout cas
au milieu du commissariat, par exemple, devant tout le monde, la file d'attente,
à la sonnette dans la rue. Voilà. Donc c'est emmener la personne dans un lieu où elle va se sentir en sécurité, en toute confidentialité. C'est aussi rappeler le principe de la confidentialité, du secret professionnel. Et alors, voilà, moi je veux mettre beaucoup d'humain dans mon accueil. Mon cabinet, il est super accueillant. Il y a un petit café ou une tisane. Oui, t'es déjà venu.
Et il est bien. Tu voudrais que tu nous donnes la. Enfin, dis-nous où il est pour les personnes qui sont en Belgique justement.
Il est à Ytres, à l'espace ouvert à Ytres. Donc c'est un centre pluridisciplinaire. Et peut-être qu'après je pourrais parler des différents ponts qu'on fait entre thérapeutes. Oui, pour moi c'est vraiment important d'avoir un beau lieu chaleureux où la personne se sent accueillie, où on met ensemble un cadre qui est respectueux. Et c'est vrai que souvent les patients arrivent en disant « Ah, qu'est-ce qu'on se sent bien chez vous ? Qu'est-ce que c'est humain ?» Et quand on a vécu une expérience comme un viol, par exemple, mais qui est quelque chose de tout à fait déshumanisé, retrouver de l'humain, en fait, c'est déjà thérapeutique, en fait. Donc, je pense que l'accueil, il est super important. Ce qui est super important pour moi aussi, c'est de, on en discutait tout à l'heure, c'est d'adopter une posture professionnelle basse, où on accompagne et pas où on vient secouer, en fait, les patients. Et alors, cette posture professionnelle, elle passe aussi par des attitudes, en fait, une forme de synchronisation corporelle, verbale. On va utiliser le même vocabulaire que les patients. On va pas faire les intellos qui viennent avec des termes techniques. On se synchronise, en fait, avec la personne. Et pour moi, ça valorise vraiment une bonne qualité d'écoute. On est là pour la personne.
Et pour les personnes qui se diraient justement, qui ne sont pas armées pour ça et qui se disent, que dire après, que faire ? Donc, bien sûr, la posture, etc. Mais il y a bien sûr aussi l'importance des mots et la difficulté des fois à trouver les bons mots. Et donc, beaucoup de thérapeutes qui disent, je ne sais pas quoi dire, j'ai peur d'être maladroit, maladroite. Est-ce que ça, tu as des petites pistes, des petits outils ?
Alors, moi, je demande aux gens, je leur dis, écoutez, je vais peut-être dire des bêtises, je vais peut-être dire un mot qui ne vous convient pas, parce que je ne vis pas dans votre tête et dans votre corps, mais je pose des questions très franches, en fait. Et je leur dis de me dire stop, de m'aiguiller aussi sur la manière dont eux, ils ont envie que je m'adresse à eux. Et donc, ça démarre déjà tout simplement par dire, voilà, vous vous présentez, vous avez envie que je vous appelle, comment que je vous appelle monsieur, madame, par votre prénom, par votre surnom. Vous voulez, quand on travaille par exemple avec une population transgenre ou en transition, vous voulez que je vous genre comment ? Et vous voulez que je vous tutoie ou que je vous voie ? Comment vous avez envie de m'appeler ? Pour moi, ça c'est OK. Par contre, ça ne l'est pas. Et donc, ça passe aussi par ça, c'est créer du lien en fait. C'est entrer en lien avec la personne qui vient nous voir.
Et ce que j'entends, c'est aussi créer un cadre ultra sécurisant finalement, avec cette posture basse, cette posture d'accueil, d'écoute et de comment on interagit avec l'autre, mais en se basant sur ce que l'autre a besoin et envie finalement. Ouais.
Ouais.
Donc, bien plus que ce que vous dites, c'est aussi comment vous êtes avec la personne. Et presque, il n'y a presque pas grand-chose à faire, si ce n'est d'être dans l'écoute. Et en fait, on a les clés presque de ce que la personne a besoin.
Oui, souvent, il suffit de l'observer, en fait. De lui demander, mais aussi d'observer. Et quelqu'un qui va parler comme ça, tout doucement, on ne va pas se mettre à parler « Oh, super fort !» Voilà, quelqu'un qui a un rythme de parole très, très lent, on ne va pas parler très, très vite. Enfin, c'est vraiment... Ouais. Se synchroniser, en fait.
Se calquer. Faire miroir, finalement, aussi. Faire miroir, ça rassure aussi beaucoup. Alors, ma dernière question, ma question phare de ce podcast, c'est si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité et ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait pour toi ?
Oh là là, il y a tellement de choses à retenir.
Celle qui ne te vient pas forcément la plus... voilà, celle qui te vient en premier. Hein.
Alors, celle qui me vient en premier, c'est peut-être qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise sexualité, que la seule bonne sexualité, c'est celle qui convient aux deux partenaires ou qui convient à soi tout seul quand on n'est pas en couple ou même quand on est en couple, en fait. C'est de dire qu'il n'y a pas une recette, il n'y a pas un livre de recettes de voilà comment on fait un bon gâteau au chocolat, ben voilà comment on fait une bonne relation sexuelle. La seule bonne relation sexuelle, c'est celle qui convient à celui qui la vit, en fait.
Génial, j'adore. Merci beaucoup. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver, justement, si tu veux parler un petit peu plus aussi de ton cabinet, de ce que tu proposes à l'Espace Auvert ?
Donc, en me spécialisant très, très fort en trauma, alors, se spécialiser très fort, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi des inconvénients, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, mon souhait, ça a vraiment été de m'entourer de personnes qui ont des pratiques différentes de la mienne et qui vont pouvoir offrir des accompagnements complémentaires, en fait. Et donc, à l'Espace Auvert, je me suis entourée, ben, par exemple, d'un coach physique qui va... donc, c'est un coach sportif, mais chez nous, on appelle ça un coach physique parce que c'est pas toujours du sport qu'il fait avec ses clients. Et donc... à qui, par exemple, je vais pouvoir orienter des patients qui ont été sidérés, qui ont été figés, que moi je remets en mouvement, on va dire, dans les objectifs et tout ça, mais une fois qu'il s'agit de travailler sur la remise en route du corps en tant que tel, ben, c'est un coach physique qui prend le relais. Je travaille aussi avec une praticienne en shiatsu, qui est d'ailleurs spécialisée aussi dans l'accompagnement du trauma, et qu'elle va plus travailler sur les énergies. Moi, je sais pas travailler sur les énergies. On a aussi une praticienne en acupuncture, qui va aussi pouvoir travailler avec les outils de la médecine chinoise sur les traumas et sur d'autres choses. On a une profileuse alimentaire qui va pouvoir aussi travailler sur les émotions à travers l'alimentation, par exemple. On a des coachs qui vont pouvoir, une fois que la personne est remise en mouvement, celle qui n'était pas du tout actrice de sa vie, là, ok, génial, je deviens plus actrice, mais maintenant... je dois tout remettre en marche. Hop, j'envoie chez une coach. Qui on a encore ? On a des masseuses, super intéressant. On a 3 masseuses à l'Espace Auvert qui travaillent toutes les 3 de manière différente. Super intéressant pour reconnecter au corps. Donc voilà, on est une équipe de 13 personnes maintenant. Ben, vous pouvez nous retrouver à Ytre, donc à l'Espace Auvert. On a un site internet, espaceauvert-ytre.be. Et alors, on a une page Facebook aussi, l'Espace Auvert à Ytre sur Facebook, avec tout ce qu'on organise comme activité.
Merci beaucoup Caroline, je mettrai toutes les informations dans les notes de l'épisode. J'étais contente d'être au micro avec ma collègue, ma consoeur Caroline Fierens pour parler de cette thématique de la sexologie post-traumatisante. C'est un sujet, elle a montré à quel point elle le vit, elle l'accompagne si bien au quotidien, et donc ça m'a fait énormément plaisir qu'elle réponde positivement à cette invitation. Et j'ai trouvé cet épisode tellement enrichissant. Il y a tellement de choses qu'on a abordées. Et pour vous qui l'écoutez, que vous avez vécu ça, hein, des expériences traumatisantes de près ou de loin, j'espère que ça a pu donner des pistes. J'espère que ça a pu aussi déculpabiliser s'il y a de la culpabilité, de pouvoir vous donner confiance si par exemple il y a une perte de confiance, une honte vis-à-vis des expériences que vous avez pu peut-être vivre, subir. Je vous invite grandement à aller regarder sa page ou alors à contacter des psychologues qui sont spécialisés en trauma. Si cet épisode vous a plu, si cet épisode vous a fait du bien, si cet épisode vous a permis de mettre des mots sur des choses que vous avez vécues, alors je suis contente que vous l'ayez écouté, même si peut-être certains passages n'ont peut-être pas été évidents. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité. Pour faire vivre ce podcast, pour le diffuser, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, à des amis, à quelqu'un qui peut-être se retrouve là-dedans aujourd'hui, dans une sexualité, post-traumatique. N'hésitez pas à le partager aussi à des professionnels de la santé qui accompagnent sûrement aussi des personnes qui ont eu des violences sexuelles au cours de leur vie. Je vous dis à très vite. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.